La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Bonjour Violaine.
Bonjour Fabrice.
Ah, je suis ravi de vous retrouver, comme tous les auditeurs j'imagine, pour cette émission. La nutrition et vous, alors c'est bien parce qu'on se l'était dit la semaine dernière.
Exactement.
On est
ensemble.
On est ensemble, donc en présentiel dans les studios Nutri Radio à Cannes-sur-Mer. Et on salue évidemment les studios Marilyn, hein, studio de musique bien connu, réputé.
Tout à fait.
Faut que je fasse attention, qu'on fasse attention parce qu'on est filmé. On fait une espèce de tentative.
Exactement.
On le dit hein, aux auditeurs, on fait une espèce de tentative. Donc si je bouge trop ma main, je suis dans le champ. Donc il faut
exactement.
Vraiment quasiment pas bouger. C'est pas l'essentiel, car l'essentiel pour les auditeurs, c'est d'avoir déjà comment vous allez.
Ah mais je vais très bien.
Comment ça va? Vous
et
êtes
vous
resplendissante. Pour, ah, vous êtes préparée. On va mettre des images.
Je me suis pomponnée.
Voilà, pour la télévision, c'est exceptionnel. Vous êtes le pilote type pour ce genre de d'essai. Nous allons parler de quoi avec vous cette semaine, Violaine?
Alors, on va reprendre une thématique que j'avais abordée il y a de cela peut-être 2-3 mois, les maux de ventre. Et on avait à l'époque exploité différentes causes, si vous vous souvenez, les FODMAPs, le gluten, les lectines. Et donc, sur ces 2 semaines, on va en reparler, mais on va aborder 2 causes. Et aujourd'hui, ça va être une cause très basique, très domestique, à savoir les intoxications alimentaires, la méthode avec laquelle vous cuisinez, la méthode avec laquelle vous réchauffez vos plats, qui peut être source de maux de ventre. Donc, j'avais envie de parler de ça, parce que souvent, on investigue, on se pose des questions, voire on se fait des nœuds au cerveau lorsqu'on a des maux de ventre, le transit accéléré, le transit délicat, des ballonnements, le ventre qui gonfle après les repas. Et du coup, la première cause, ça peut être tout simplement, quand vous êtes à la maison, la manière avec laquelle vous cuisinez. Et puis j'avais quelques chiffres à vous communiquer qui me semblent assez intéressants en matière d'intoxication ou de troubles digestifs. Les autorités ont alerté pendant le Covid, en 2020, lorsque le premier confinement a été déclenché, on a observé en France une augmentation de plus de 5% des intoxications à la maison, principalement due à la salmonelle. Ensuite, un germe dont on va reparler, Bacillus cereus, qu'on trouve sur le riz, et puis après, des staphylocoques liés à l'hygiène, tout simplement, de ceux qui cuisinent. Et du coup, il me semble assez important de rappeler des basiques sur comment on cuisine de manière hygiénique et tout un tas de petits conseils pour éviter d'avoir mal au ventre, tout simplement parce que dans votre cuisine, c'est pas une chambre stérile et que de ce fait, il faut respecter un certain nombre de règles.
Et ben on pense à ça et on pense surtout aussi quand on va au restaurant et du coup, la qualité du restaurant est importante parce que là, effectivement, on est retourné, on a recommencé à cuisiner depuis le Covid,
oui,
avec cette augmentation de 5% des intoxications. Donc quand on a mal au ventre, voilà, pas d'alarmisme, non. Déjà autant voir ce qu'on peut faire en termes de cuisine, d'hygiène.
Exactement, ça peut être une première cause très basique.
Ah, très bien. Eh bien. Écoutez, on va se laver les mains. On se retrouve dans un tout petit instant parce que j'allais vous proposer des tacos, des cacahuètes.
Non, je crois pas, non.
Parce qu'on retrouve dans les cacahuètes, vous avez d'où, on a tous vu ces images où on retrouve de l'urine et tout, des machins, c'est horrible.
En même temps, on n'a jamais fait d'analyse à la maison.
Ah oui.
De sa cuisine.
T'as une petite cacahuète, un truc comme ça, Violaine?
Non, ça va aller.
Allez, on marque une petite pause, on se retrouve dans un instant, juste après ceci.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
La suite de cette émission, la nutrition et vous en présentiel. Bah, ça fait plaisir que quelqu'un prenne le temps de venir
de
comme
venir
ça dans le sud de la France. Franchement, on est tellement mieux à Paris, entre un métro et puis...
C'est bien à Paris ici, c'est
oui,
beau.
Oui, bah, évidemment, c'est beau. On va faire une émission en direct du métro à un moment donné, ça peut être très sympa.
Il ne faut pas réduire Paris au métro.
C'est pas très Nutri Radio compatible, mais il ne faut pas réduire à Paris au métro, c'est vrai, les gros clichés.
Les gros clichés.
Allez, on parle des maux de ventre avec vous, Violaine, dans votre émission aujourd'hui. Aujourd'hui, vous l'avez dit en préambule, quand même, 5% d'intoxication supplémentaire en plus liée au fait que l'on cuisine et que l'on cuisine visiblement avec manque d'hygiène.
On va pas réaborder quand même le lavage des mains, etc., le lavage de la cuisine. Hein, je ne vais pas donner de conseils à nouveau là-dessus, je ne vais pas faire la moralisatrice de la matinale. Mais dans tous les cas, il y a quelques tuyaux ou tips en cuisson et en cuisine qu'il faut vraiment respecter pour éviter de tomber malade. Alors déjà, quelque chose que vous savez peut-être pas Fabrice, mais les bactéries qui peuvent du coup produire des maux de ventre, générer des maux de ventre, elles se développent entre 5 et 60-63 degrés. Ce qui signifie, et c'est extrêmement important, quand vous cuisinez quelque chose, donc forcément la cuisine ça vous permet d'attendrir les fibres, d'avoir des viandes qui soient cuites et brunies, des œufs durs, etc., etc. Généralement, vous montez à cœur hein, de l'aliment à plus de 70 degrés, ce qui détruit les pathogènes. Donc c'est plutôt pas mal. La seule problématique, c'est que si vous laissez par exemple une casserole de soupe sur la cuisinière pendant plus de 2 heures, vous allez rentrer dans cette plage de 5-60 degrés pendant tellement longtemps que les bactéries vont commencer à proliférer. Parce que forcément, rien n'est stérile hein, dans votre cuisine, rien n'est stérile dans ce que vous cuisinez. Donc il y a une prolifération des bactéries qui se fait. Alors du coup, il y a vraiment 2 règles types Quand je cuisine et que je veux après réserver mon plat hein, pour le soir, etc., en moins de 2 heures, il doit descendre à moins de 5 degrés. Donc, généralement, dans l'heure qui suit la cuisson, vous mettez ça au réfrigérateur ou au congélateur. Mais vous ne laissez pas un plat reposer plus de 2 heures à température ambiante en se disant « je vais le faire réchauffer quand on va passer à table ». Ça, pour avoir une prolifération et être malade, il n'y a rien de tel.
Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « mais mince, c'est pas possible, combien de fois ?» Non, parce qu'en plus, on se dit,
c'est clair.
Quand on cuisine, on fait des plats mijotés, par exemple.
Exactement.
On se dit « on ne va pas le mettre au réfrigérateur tout de suite, parce que ce n'est pas bon de mettre du chaud dans le réfrigérateur », c'est ce qu'on se dit aussi.
Oui, c'est ce qu'on dit, parce que généralement, ça fait monter la température du réfrigérateur et ça coupe la chaîne du froid. Mais en même temps, vous n'êtes pas obligé de mettre les gamelles bouillantes dans le réfrigérateur. L'idée, c'est quand même de mettre ça dans un autre récipient qui va au réfrigérateur. Et le transvasement, déjà dans un plat qui est froid, va vous aider. Alors après, vous pouvez mettre ça au bain-marie, mais dans un bain d'eau fraîche, sur un lit glaçon, etc. Mais dans tous les cas, ça, c'est extrêmement important. Ensuite, quand vous réchauffez, il faut bien savoir que la température, lorsqu'elle va remonter, parce que par exemple vous avez des restes, si vous restez trop longtemps entre 50 et 60 degrés, la prolifération des germes va reprendre, ainsi que ceux qui ont contaminé le plat dans le réfrigérateur, hein, et vous risquez à nouveau, et on va en parler sur un certain type d'ingrédients très typiques, une prolifération bactérienne qui vont se mettre à produire des toxines, des spores. Vous savez ce que sont les spores ?
Non, pas du tout.
Bah, les spores, c'est
beaucoup
comme
de spores,
des...
Mais ouais.
Oui, effectivement. Mais là, la spore de la bactérie, c'est tout à fait différent. C'est comme une petite capsule qu'elle va générer, qu'elle va évacuer et qui va résister à des températures extrêmement importantes qui ne vont jamais être détruites ou dans des conditions de stérilisation, etc. et qui vont générer des toxines. Donc, vous prenez ce risque lorsque vous faites remonter un plat à température de consommation pendant trop longtemps. Donc, généralement, on dit que vous sortez du réfrigérateur, vous cuisez directement, vous mettez au four micro-ondes, il faut que ce soit réchauffé de manière uniforme et il faut, si possible, remonter au-dessus de 70 degrés. C'est-à-dire qu'il faut traiter un reste comme on traiterait un plat qu'on se met à cuisiner dès le début.
On ne fait pas cuisiner un tout petit peu, on ne réchauffe pas un tout petit peu. Il faut vraiment le faire
réchauffer. Il faut vraiment réchauffer parce que vous prenez vraiment le risque d'avoir une prolifération. Alors après, je ne veux pas non plus faire peur dans sa cuisine, mais c'est vraiment important. Et vous verrez, il y a des ingrédients typiques comme le riz,
On y reviendra après.
Oui, on va revenir.
Ménagez le suspense, hein, ne balancez pas tout tout de suite. Voilà.
Oui, je parle. Donc du coup, c'est vraiment des choses qui sont importantes. Et comme vous le savez, quelque chose qui est décongelé, qu'on souhaite décongeler, on le décongèle au réfrigérateur ou tout de suite à la cuisson ou au micro-ondes sur le programme décongélation. Vous ne laissez pas ça à température ambiante dans la cuisine.
Je suis en train de me prendre des claques.
Etc.
Je suis en train de me prendre des claques.
Alors,
je fais tout ce qu'il ne faut pas faire.
Vous êtes peut-être hyper solide niveau digestif, vous avez peut-être de l'acide chlorhydrique à mort et du coup vous désinfectez votre bol alimentaire. Mais il faut savoir que chez des personnes qui sont plus sensibles, qui ont par exemple une hypersensibilité viscérale, qui ont un syndrome de l'intestin irritable, les enfants, les immunodéprimés, les femmes enceintes, etc. Si vous faites ça, vous augmentez le risque de les voir malades. Alors, je ne parle pas d'intoxication forcément fatale comme la salmonellose peut l'être. On pourrait en parler, mais ce n'est pas trop le sujet aujourd'hui. Là, c'est vraiment les maux de ventre. Il faut faire extrêmement attention. Donc, une fois qu'on a bien en tête que les températures de cuisson, c'est déjà la clé pour éviter qu'on fasse proliférer les bactéries, leurs spores, leurs toxines, pour potentiellement avoir mal au ventre, parce que généralement, c'est un effet dose, c'est-à-dire, on en parlera sur le riz, plus vous avez une contamination au bacille céréus du riz, plus vous risquez la diarrhée, enfin, faut dire les choses clairement. Donc au lieu de dire, ah là là, je tolère pas tel plat, non, c'est juste que c'est sale, entre guillemets, et que la prolifération s'est faite de manière trop rapide, parce que la cuisson ou le réchauffage n'a pas été maîtrisé. Donc je voulais juste rappeler, déjà, ces petites règles de cuisson et de réchauffage qui sont la clé d'une alimentation saine, hein, mais de salubre au moins, et vraiment la maîtrise dans la cuisine des températures, c'est déjà la clé pour éviter des désagréments digestifs.
Non, mais voilà. Ça, c'est hyper important parce que c'est vrai qu'on a tous des maux de ventre à un moment donné. On se dit, mais à quoi est dû ce dérèglement ? On pense au stress, on pense à tout, sauf.
Mais parfois, il y a un basique.
Voilà, ouais, on pense à tout, ça. Sauf au basique. Donc, merci beaucoup pour ces rappels. On va avoir, je ne sais pas vous, hein, chers auditeurs, mais ça me rappelle une petite anecdote que je vous partage, même si tout le monde s'en fout, mais bon, néanmoins, l'idée, non mais j'ai préparé avec beaucoup d'amour pour mes enfants là, l'été dernier, donc imaginez il était dans le sud de la France, c'est 50 degrés à l'extérieur, à l'intérieur, donc je prépare un poulet au curry, j'ai acheté genre 3 kilos quoi, j'ai mis ça, moi je suis tranquille après. Mais c'était très chaud, et du coup je me suis allé me coucher, et le lendemain je me mettais au frigo. Et le lendemain, il y a une espèce d'odeur, et je me suis dit, vaut mieux pas qu'on le manque, parce que là, c'était la fin.
Alors, il y a quand même, ça me rappelle un sujet hyper important, c'est que déjà les plats cuisinés, généralement, il faut les consommer dans les 3 jours. quand ils ont été mis au réfrigérateur dans l'heure qui suit.
D'accord.
Au bout de 3 jours, vous les jetez. Le poisson, c'est 24 heures. Hein. Après, vous ne vous amusez pas à dire, tiens, je vais le congeler et tout, et je le ressortirai plus tard. Non, c'est 3 jours. On dit dans la restauration collective, c'est J3 ou J+3. Ça, c'est une première chose importante. Et puis la deuxième chose, c'est que se fier à l'odeur des plats, c'est une bonne idée. Hein. C'est le propre même de l'humain d'avoir son nez pour savoir si c'est toxique ou pas. Mais par contre, les bactéries pathogènes, hein, les salmonelles, les staphs, le staphylocoque et les bacilles, ça n'a pas d'odeur. C'est là où c'est sioux. C'est là où c'est dangereux. C'est que c'est silencieux. Et donc sur les vraies bactéries pathogènes qui peuvent vraiment altérer votre santé, aller bien au-delà du maux de ventre hein, et des troubles digestifs, ça n'altère pas le goût. Faites attention, ni l'odeur. Donc et vous avez eu un bon réflexe, ça, quand même.
Oui. Donc ça veut dire que le petit saumon cuisiné qui est dans le frigo depuis une semaine et qu'on reprend parce qu'on n'a plus rien à manger, pas bonne idée.
Pas bonne idée. Bon, alors généralement, le poisson, ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres dégradations des protéines qui génèrent des odeurs. Donc, dans votre paella, il y a peut-être les moules qui avaient tourné assez rapidement.
C'est un miracle que je sois encore en vie, en fait. C'est ce que je me dis. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec vous, Violaine.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Violaine Chaumont sur Nutri Radio, la suite de cette émission La Nutrition et vous, où on apprend à revenir aux basiques. Et finalement, ça nous rassure en fait, parce qu'on parle aux chers auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, on parle des maux de ventre et puis des raisons un petit peu essentielles pour lesquelles on a mal au ventre, enfin essentielles en tout cas, primaires. Où on se pose beaucoup de questions, on dit mais pourquoi là d'un seul coup je vais aux toilettes souvent, ou pourquoi ci, pourquoi ça. Souvent ça vient de la manière dont on cuisine, vous l'avez dit Violaine Chaumont, depuis le Covid on a repris le chemin de nos cuisines, on s'est mis à dire bah tiens c'est super, sauf qu'il y a eu 5% d'augmentation des intoxications alimentaires supplémentaires liées au fait du manque des précautions d'hygiène élémentaires, on va dire. Alors comment on fait pour cuisiner correctement?
Alors, déjà, on écoute le début de l'émission et on reprend les histoires de température, etc. etc. Ah, puis maintenant, je vais vous cibler les aliments peut-être les pires en matière d'intoxication. Et puis surtout, plutôt en même temps, des aliments qui, au réchauffage, vont générer des nouveaux composés au-delà des bactéries qui peuvent perturber tout simplement votre digestion et vous faire mal.
Mais par exemple, pour le riz, vous avez dit qu'avant le riz... est-ce qu'on peut enlever... On achète un sachet de riz, on voit qu'il y a des bactéries, on se dit, est-ce qu'on peut les enlever ou...
Alors
faut
le riz, c'est un très bel exemple parce que beaucoup d'autorités, j'ai découvert ça en préparant l'émission parce que, bien sûr, j'ai fait quelques investigations et j'étais extrêmement étonnée depuis le Covid que ce soit les autorités anglaises, la FSA, la FDA en Angleterre, en Belgique, l'Agence nationale de sécurité des aliments en France ont publié énormément d'alertes et de recommandations en matière de cuisson. Et sur le riz, donc on a les Américains surtout et les Anglais qui rappellent cette chose suivante. Le riz, donc ça vient de rizière, hein, donc généralement c'est contaminé avec un certain nombre de bactéries et notamment le Bacillus cereus. Quand vous faites cuire le riz, parce que vous pouvez pas le manger cru, donc c'est déjà une chance, vous évitez de le consommer comme ça, il va monter à une température au-dessus de 70 degrés. Donc généralement, les pathogènes sont détruits. Donc ça, c'est bien, et puis voilà. Par contre, la problématique, c'est lorsque vous faites refroidir le riz, parce que vous en avez trop. Par exemple, vous le remettez au réfrigérateur, et puis après, le lendemain, vous vous dites, tiens, je vais le faire réchauffer au four micro-ondes. Donc vous mettez au micro-ondes, et puis parce que vous n'avez pas envie de vous ébouillanter, vous ne faites pas très attention, et puis si possible, vous mettez le doigt dedans, pour vérifier si c'est assez chaud, hein, parce qu'on fait tout ça, quitte à se brûler. Tant qu'on n'est pas à la cloque, on se dit « bon, ben, ça va, je vais pouvoir le consommer ». Et la problématique, c'est qu'il y a une bactérie qui pousse de manière privilégiée sur le riz, c'est le Bacillus cereus. Et le Bacillus cereus, c'est une bactérie qui va libérer des spores. Si vous êtes sur une température de 50-60 degrés, eh bien, elle va se mettre à proliférer parce qu'elle va être hyper bien. Le riz, c'est chaud, le riz, c'est humide. Le riz, c'est propice au développement du Bacillus cereus. Donc, la bactérie va se développer, puis vous allez manger votre riz sans vous ébouillanter, donc vous êtes content. Sauf qu'à l'intérieur des intestins, le bacille, avec ses spores, va se mettre à générer une toxine. Et notamment, il y a une toxine du bacille qui génère la diarrhée, tout simplement. Donc, et qui va se déclencher peut-être 6 heures après le repas et qui va durer 24 heures. Donc ça arrive assez régulièrement quand même qu'on entend quelqu'un, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis pas bien, j'ai dû manger un truc qui était pas bon, ou je tolère pas, j'ai mangé un yaourt, ou je tolère pas ci. Mais généralement, surtout s'il y a du riz qui a été consommé, ça peut tout simplement être lié à ça. Donc la recommandation, c'est que je fais toujours réchauffer mon riz au-dessus de 70 degrés, obligatoirement et de manière uniforme. Alors, il est recommandé souvent d'avoir un thermomètre. Vous avez un thermomètre de cuisine?
Non, pas du tout.
Moi j'en ai un, mais qu'en Bretagne, alors du coup...
Et dans le micro-ondes par exemple? Le micro-ondes, c'est au-dessus de 70 degrés
Pas forcément, ça D'accord. dépend combien de temps vous le laissez. Si vous mettez 900 watts, 30 secondes, le riz ne va pas monter à 70 degrés. Donc généralement, on dit qu'il faut réserver le riz pour que ça fume toujours. C'est ça le repère un petit peu visuel pour s'assurer qu'on est au-dessus de 60-70 degrés et faire en sorte que les bactéries ne prolifèrent pas, parce que le riz dans le frigo, bon déjà on couvre tout, hein, on ne s'amuse pas à laisser les ingrédients comme ça, on ne met pas des ingrédients cuits au contact d'ingrédients crus ou le carton des œufs à côté, hein, on fait quand même un peu attention. Et la gestion du frigo, ça pourrait faire l'objet d'une émission.
C'est ce que j'étais en train de vous dire, non mais franchement, il faut faire une émission sur la gestion des aliments dans le frigo.
Non mais c'est plus qu'indispensable et de ce fait, le riz se contamine, ce qui est normal, la cuisine c'est pas stérile. Hein, la nourriture, c'est pas stérile. Nous ne sommes pas stériles.
C'est-à-dire que la salade de fruits, la salade de riz, pardon, parce que l'été, on fait beaucoup de salade de riz, on fait chauffer la veille, on le mange en salade le lendemain, c'est
exactement.
Mort.
Exactement. Bah, non, vous n'avez pas compris, Fabrice.
Non.
Si mon riz est froid au réfrigérateur, je l'ai réservé, il est au frais, etc., bah, vous pouvez le resservir en salade. La problématique, c'est la remontée en température.
Oui, voilà, c'est ça.
Vous allez faire monter le riz à une température où les bactéries, elles sont super bien et elles se développent. C'est ça la problématique. Donc, généralement, il faut réchauffer jusqu'à 70 degrés en moins d'une heure pour éviter que les bactéries est un temps total pour se développer, coloniser et puis qu'elles puissent tout simplement générer leurs spores et leurs toxines.
Mais ça veut dire aussi que la salade le riz qu'on en sort pour faire une salade, il faut le consommer froid tout de suite, il ne faut pas le laisser sur la table.
Il faut
le manger tout de suite. Parce que c'est plus agréable la température ambiante, c'est pour ça.
Oui, tout à fait, mais vous pouvez le préparer, etc., faire une salade, et puis après, vous remettez la salade au réfrigérateur avant de la sortir, etc., qu'elle réchauffe un petit peu. Mais c'est le temps qui joue contre nous en matière de bactéries, le temps et la chaleur. Donc ça, c'était l'exemple du riz.
Très bien, alors justement, en parlant de temps, on va marquer une dernière pause, et on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, avec ces 5-6 ingrédients qui sont plus propices que d'autres au développement des bactéries.
Des bactéries, plus d'autres composés qui peuvent rendre... Chafouin.
Très bien, on marque une pause et le temps que je comprenne tout ce que vous m'avez dit, parce que j'ai bien compris que vous m'avez dit que je ne comprenais rien du tout, merci. Allez, on marque une pause, on se retrouve juste après ça.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.
Alors avec Violaine Chaumont, on apprend. On ne comprend pas tout de suite, mais on apprend, en tout cas moi.
Moi, il faut réécouter.
Mais c'est vrai qu'on parle de l'alimentation, on parle des maux de ventre, et puis en creusant et en discutant, on s'aperçoit qu'on est nombreux, et j'espère que je ne suis pas seul à me reconnaître en ce que vous dites, mais sur des pratiques un peu limites dans la cuisine, sur le réchauffement des aliments, sur la cuisson, sur la conservation. Finalement, c'est Bactériland en réalité.
C'est Bactériland, oui, complètement.
C'est vrai. Alors, quels sont ces 5 ou 6 ingrédients justement qui sont encore plus propices et sur lesquels il faut être très vigilant?
Alors, on a parlé du riz. Donc là, je vais vous parler d'un autre ingrédient. Ce sont les pommes de terre. Alors, les pommes de terre, elles sont intéressantes à différents niveaux. Déjà, il y a toute une polémique, pas une polémique, plutôt une controverse entre l'Angleterre et les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, comme aussi la Belgique, qui est assez pro en matière de pommes de terre, sans rire, hein, parce qu'ils ont tout un site internet sur les
cliché.
Pommes de terre. Normalement, on les conserve au
alerte
froid.
Cliché.
Alerte cliché. Bah oui, mais les clichés, ils viennent de quelque part. Mais dans tous les cas, les pommes de terre, il faut les conserver au frais. Et il faut les conserver dans le noir. L'Angleterre, par exemple, dit « vous pouvez les mettre au réfrigérateur, ce n'est pas un souci ». Beaucoup d'autres pays disent « non, vous ne les mettez surtout pas au réfrigérateur. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez une pomme de terre au réfrigérateur, elle a tendance à dégrader son amidon pour faire du sucre. Et le sucre, quand vous faites des pommes de terre isolées, ça génère notamment de l'acrylamide. Ça vous parle, ça ? Non ?
Non, j'apprends.
J'essaye de vous,
non,
de vous intéresser.
Maintenant, ça me parle.
L'acrylamide, attendez, j'ai juste un trou sur la prononciation du terme. Vous me laissez regarder mes fiches.
Attendez. Alors là, je suis content. Voilà.
Je
vais regarder.
Parfois, j'ai des problèmes.
Crimalide.
Hop,
on vérifie. C'est ça. Là. Non, vous êtes sûr que c'est ça ? Vous avez dit l'acrimalide.
L'acrimalide. Non, mais j'avais raison, en fait. J'ai fait un peu de dyslexie sur des mots. Alors, du coup, je m'interroge toujours. Donc, l'acrimalide, donc, c'est une molécule qui est générée lorsqu'on fait brunir des amidons. Et cette acrimalide, elle est vraiment déconseillée quand on a une hypersensibilité viscérale parce qu'elle déclenche de l'inflammation. Ceux qui ont des maladies chroniques intestinales le savent. Donc, déjà, c'est un premier point sur la pomme de terre. Le deuxième point, c'est que quand vous faites cuire une pomme de terre, alors vous êtes content. Vous faites rissoler vos pommes de terre ou vous faites des pommes de terre à l'eau. À ce moment-là, l'amidon change dans la pomme de terre. D'accord ? Bah parce que ça la rend digeste, tout simplement. Quand vous faites refroidir la pomme de terre que vous aviez fait cuire, l'amidon se retransforme du fait du refroidissement. Mais si vous faites... Et du coup, on sait ce qu'on appelle l'amidon rétrogradé, l'amidon résistant. Il se comporte un petit peu comme une fibre. Donc ça, pourquoi pas ? C'est pour ça que le pain rassis, c'est à peu près la même chose. Lorsqu'il se dessèche, est un peu plus digeste, etc. Mais si vous faites à nouveau réchauffer les pommes de terre, l'amidon se retransforme et les pommes de terre qui ont été cuites, qui sont réchauffées, déclenchent des ballonnements et des maux de ventre qui, chez certains, sont vraiment à la limite de la tolérance. Donc jamais ne faire réchauffer une pomme de terre qui a été cuite. Vous faites une salade de pommes de terre si vous voulez, mais vous ne la faites surtout pas cuire, réchauffer à nouveau. Jamais. Après, en matière de bactéries, bon, ça n'existe plus trop, mais généralement, la pomme de terre réchauffée était associée à un risque de toxine botulique. Vous savez, cette sacrée toxine qui paralyse le système nerveux. Il y a eu un cas, il n'y a pas très longtemps, aux États-Unis, mais c'est assez rare maintenant. Mais dans tous les cas, elle est propice à ce genre de développement. Donc, une pomme de terre, déjà, si vous la faites rissoler, pas trop, hein, pour pas qu'il y ait trop d'acrymalide. Ensuite, si vous les faites cuire, vous les faites refroidir pour pouvoir les conserver pour plus tard. Vous ne les faites jamais réchauffer. Si vous voulez avoir mal au ventre, il n'y a rien de tel.
Vous savez, c'est marrant ce que vous dites. Enfin, c'est marrant.
Parce que hier soir, justement, vous avez fait ça.
Non, mais c'est parce qu'en fait, on a tous fait. Hier soir, j'ai mangé du riz. Avec des pommes de terre réchauffées, bon, ben,
oui, c'est ça.
Je me dis, ça me sent
ça
pas bien.
Ça va le ventre.
On va faire une pause de temps que j'aille. Non, mais simplement, sur les, il y a quand même des. Vous savez, on récupère les restes, donc on fait des pommes de terre.
Oui, bah,
et le lendemain,
bien,
il y a ces recettes où on les met dans la poêle, on les fait revenir avec un peu
pas.
De moutarde, machin. Non, ça, c'est pas bon. Et en plus, on rentre dans une période de raclette. C'est raclette time, là, bientôt.
Oui.
Donc, et on sait qu'il y a des restes hein, de pommes de terre.
Donc, on fait une salade de pommes de terre.
Voilà, pommes de
avec
terre.
Avec du poisson, par exemple. J'adore ça. Avec du maquereau, avec du thon.
Froid pour le coup.
Froid, exactement.
Voilà, ok,
exactement.
Très bien.
Mange ça en Alsace.
Qu'est-ce qu'on apprend
bon.
Avec
vous voilà.
Donc, autre ingrédient un
autre
peu
ingrédient, alors, les légumes feuilles, généralement laitue, épinards, ce genre de choses. Pareil, alors, je ne pourrais pas vous expliquer parce que je n'ai pas réussi à trouver exactement ce qui se passe au niveau des maux de ventre, mais il paraît que laitue, épinards qui sont réchauffés provoquent des maux de ventre. Mais à côté de ça, on a un autre problème, c'est que les légumes feuilles contiennent des nitrates, naturellement ou s'il y a des engrais. Ces nitrates, sous l'action du réchauffage, vont se transformer en nitrite, en nitrosamine. Qui est classé cancérigène. Donc il est réputé que les légumes feuilles à la deuxième cuisson, non. Ben, vous vous exposez à des réactions inflammatoires, à des radicaux libres, etc., qui sur le long terme peuvent être néfastes. Donc les légumes feuilles, on ne les fait pas réchauffer, laitue, épinards, etc. Et puis, juste un petit truc, les épinards, ça contient une protéine Rubisco. Je ne sais pas si ça a déjà été évoqué sur Nutri Radio.
Non, pas encore.
Mais Rubisco, c'est l'abréviation, ça ne s'appelle pas comme ça, de manière scientifique, qui peut générer des pepsines, des peptides au moment de la digestion et qui fait mal au ventre pour certains d'entre nous. Donc, du coup, faites attention aussi aux épinards.
D'accord, et ça c'est aussi important de le préciser parce qu'on fait par exemple des plats comme un gratin d'épinards, on en fait une fois et on peut le faire réchauffer le lendemain.
Et
ou
bah, c'est
quoi.
Pas conseillé. Ouais,
c'est pas conseillé.
Ouais, tout à fait, c'est okay. Pas conseillé pour les nitrates qui se transforment et puis le rubisco des épinards sur ceux qui ont une hypersensibilité viscérale, ça peut vous agresser les tripes, si
très
je
bien.
Puis dire. Et ensuite, il y a deux autres ingrédients qui sont aussi soumis à ce genre de problème, ce sont les œufs notamment et les champignons qui sont réputés pour. Alors, les œufs durs, quand vous les avez fait cuire, bien évidemment, ils sont chauds, vous les consommez ou vous les mettez au réfrigérateur. Ne les faites pas réchauffer si vous voulez les reconsommer. Les protéines se modifient de telle manière que ça peut générer des maux de ventre. Donc les œufs durs, après, vous les mangez en demi-mosa, mais vous ne faites pas réchauffer un œuf qui a été
ça,
durci.
C'est fou. Non, mais en fait, bon, c'est pas quelque chose, on se dit, bon, on ne le fait pas ça, mais par exemple, tout bête, on prend des pizzas, il y a des œufs, etc. Le lendemain, on le met au frigo, il en reste, le lendemain, hop, un petit coup de micro-ondes, il reste des pizzas. Pas bon.
Ben, ça peut vous provoquer des maux de ventre.
D'accord.
Les œufs qui sont réchauffés. Pareil avec les champignons, c'est aussi mis sur le compte des protéines. Un champignon qui a été cuit, bon, ben, c'est mieux pour le consommer. Mais ensuite, ne le faites pas réchauffer à nouveau. Vous risquez d'avoir ce problème de digestion. Il y a le poulet aussi qui a été remis en question. Alors forcément, le poulet, hein, si le réchauffage est mal fait, vous risquez la salmonellose ou un certain nombre de bactéries, etc. Mais exactement de la même manière, les protéines du poulet peuvent trop se modifier au réchauffage, notamment au micro-ondes, ainsi que le cholestérol et les graisses du poulet. Il y a toute une étude qui a été faite que j'ai étudié hier, qui date de 2020, sur la viande de porc marinée. Une viande de porc marinée, si elle subit des cycles de cuisson, un réchauffage, un refroidissement, et puis un autre réchauffage, parce qu'il en reste tout simplement et qu'on ne va pas le jeter, eh bien le cholestérol s'oxyde. Et un cholestérol oxydé, quand vous le consommez, c'est aussi problématique au niveau digestif et au niveau des maladies cardiovasculaires sur le long terme. Donc voilà, donc je voulais à travers ces quelques exemples, parce qu'on pourrait en étudier d'autres, même si la documentation n'est pas facile à trouver, parce qu'il faut vraiment rentrer dans l'analyse chimique des ingrédients pour comprendre les raisons des maux de ventre, etc. Au niveau des bactéries, c'est un peu plus simple. Hein. Entre 5 et 60 degrés, vous avez majoritairement tout qui se développe avec des bactéries un peu plus compliquées. Comme je vous le disais au début, à la maison, c'est la salmonelle liée aux œufs, à la viande, aux charcuteries, etc., qui sont maltraitées, mal conservées, ah. Mal réchauffées. Et après, c'est le Bacillus cereus qui vient du riz et des céréales qui pose souci. Et je vous ai expliqué longuement tout à l'heure.
Donc ça veut dire que en réalité, le réchauffage, enfin le réchauffer des plats qui datent de la veille, c'est pas très bon. Et je pense à tout. C'est
acheter des thermomètres de cuisson.
Non, mais c'est vrai. Mais je pense, il faut aller à une certaine température si on veut réchauffer. Il faut
70 degrés à cœur,
voilà.
Toujours.
Très bien. Eh bien, écoutez, voilà. On est informé. On est informés.
Vous le savez maintenant.
Ça va changer. Il y aura un avant et un après cette émission, mesdames, messieurs. Il y aura un avant et un après. Et c'est une masterclass. C'est une masterclass de Violaine Chaumont. Merci beaucoup. Une émission que vous pouvez retrouver en podcast à la fin de la semaine sur nutriradio.fr dans la partie médias et podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio. Au revoir, Violaine.
Au revoir, Fabrice.
La nutrition et vous, Violaine Chaumont sur Nutri Radio.